à tous ceux où j'ai pas eu l'occasion de dire bonjour tout à l'heure. C'est une joie pour nous d'être avec vous, pour partager la parole de Dieu ce matin. Pour ceux qui me connaissent pas, vous avez la possibilité d'acheter le livre derrière quand Dieu appelle. Enfin, dans ce livre, j'ai brièvement un peu mon histoire, mais c'est surtout l'histoire de l'Église, de l'Assemblée chrétienne qui a vu le jour à La Tanne, à 1000 mètres d'altitude, en-dessus de Tavannes, avec deux familles d'agriculteurs. C'est particulier, c'est très particulier, des agriculteurs que Dieu a appelés, que Dieu a choisis, que Dieu a établis, commencer à zéro, vraiment à zéro avec deux familles. Et ben, si ça vous intéresse, vous lirez cette biographie de l'Église, cette histoire de l'Église avec beaucoup de témoignages, de très très belles choses, mais aussi des défis assez pertinents, assez terribles. Des souffrances assez terribles, mais on est tellement reconnaissant pour l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, ça fait déjà plus de 10 ans que nous sommes à Tavannes. Nous avons construit ce nouveau centre parce qu'à La Tanne, dans la salle, la grande salle, on n'avait plus assez de place. Et nous louons le Seigneur pour son œuvre. À lui soit toute la gloire. J'ai deux autres livres, une église équipée et pertinente dans un monde fragile où je partage plusieurs messages, plusieurs choses que j'ai à cœur pour que l'Église puisse, que nous puissions grandir, être davantage équipés pour être pertinents. On sait dans quel monde extrêmement fragile nous vivons, n'est-ce pas? Et c'est important que nous puissions continuer à avancer avec notre Seigneur. Et l'autre livre, c'est un chrétien équipé reste en chemin dans un monde fragile. C'est plutôt des thèmes plus personnels. Comment grandir avec Christ, comment prier, la lecture de la parole, comment être avec les prochains, etc., etc. Vous pouvez les acheter, ces livres, 15 francs, le bénéfice est pour la mission. Voilà, ce matin, le thème, c'est « Choisi et établi par Jésus ». Donc, j'aimerais d'entrée dire deux choses. L'importance de continuer à partager l'Évangile, l'importance de continuer à être sel et lumière là où Dieu nous place. De nombreuses personnes ne savent pas pourquoi il faut donner sa vie à Christ. Ils ne savent pas. Donc il faut l'expliquer. Voilà, et là je vais commencer par lire un verset dans Jean 15, verset 16. Jean 15, verset 16, où Jésus dira « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi ». Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Enfin, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous donne. J'aimerais déjà ouvrir une parenthèse par rapport à ce verset qui est très pertinent. Donc, Jésus dit, je vous ai choisi et établi afin que vous alliez et que vous porter du fruit. Donc, le résultat, c'est du porter du fruit, non pas pour nous, mais pour la gloire de Dieu, là où il nous place, et ce que nous demanderons au Père, au nom de Jésus, il nous le donne. Donc, Dieu va se manifester quand on se met en marche pour lui. D'accord? C'est comme Jésus qui dit, allez, faites des disciples, les miracles vous accompagneront, etc., etc. Alors que je ne suis pas celui qui dit que chaque personne doit être intégralement guérie. Il y en a assez qui le disent, qui prêchent cet évangile de la prospérité, où on dit que tout le monde doit être riche, tout le monde doit se porter bien, tous les malades doivent être guéris, etc. Je ne connais aucun pays, aucune église, aucun pasteur dans le monde qui peut témoigner que avec chaque personne qu'elle a prié, elle a été instantanément guérie. Je connais des hommes de Dieu, on peut le dire, des grands hommes de Dieu, comme Reinhard Bonnke, par exemple. Ben, il est décédé avec un cancer. Mon papa, qui a vu de nombreuses personnes sortir de leur souffrance, est décédé avec un cancer du foie. Et on a vécu d'autres situations très compliquées. Mais une chose est claire, que chaque prière que nous faisons, Dieu les note soigneusement. Et un jour, dans la présence de Dieu, il nous montrera le fruit de ses prières. Là où nous n'avons pas de réponse, Dieu nous le montrera si c'est nécessaire. D'accord ? Voilà, donc, j'aimerais un peu vous partager ce que j'ai à cœur par rapport à cette parole où Jésus dit « Je vous ai choisi ». Être choisi par Jésus, n'est-ce pas une des plus belles choses que nous pouvons vivre ? Vous savez, être choisi par la reine d'Angleterre, aller manger avec elle, ça doit être génial. Mais la reine d'Angleterre, à côté de Dieu, elle est tout, tout petite, tout, tout, tout minuscule. Trump, ce grand homme. Mais à côté de Dieu, il est minuscule comme ça. Je ne suis pas en train de dénigrer ses personnalités, vous comprenez. Mais Dieu, être choisi par Jésus, c'est tellement fort. Être choisi, sauvé, libéré, racheté par la mort de Jésus. Ça, c'est le cœur de Dieu pour chaque être humain. Amen. C'est par amour que Dieu a donné son Fils dans ce monde, mourir à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, choisi, établi par Jésus, pour porter un fruit, parce qu'il a besoin de nous pour que les hommes soient sauvés. Non pas que nous devrions mourir à la croix pour les autres, non, mais porter cet évangile. Qui, à la fin d'une journée, n'a jamais dit « j'aurais mieux fait de rester au lit ce matin ». Moi, ça peut nous arriver. Mais en même temps, avec Jésus, on ne fera jamais mieux de rester au lit. Parce que nous savons que quoi que nous vivons, chaque jour, Jésus est avec nous. Nous sommes dans ce monde, non pas par hasard, mais nous sommes des créatures de Dieu. Nous savons qui nous sommes en Christ. Ma vie a un sens à cause de l'amour de Dieu, à cause de ce que je suis en Christ. Si je suis dans ce monde, c'est parce que Dieu m'a voulu, maintenant et pour l'éternité. Amen. Donc, je vous ai choisi. Ça, c'est un fait, c'est une réalité. Et je vous ai établi. Quand Jésus nous choisit, ben, il nous qualifie aussi. D'accord ? Dieu n'appelle pas premièrement des gens déjà qualifiés. Mais il qualifie ceux qu'il choisit. Ensuite, il y a aussi des enfants de Dieu qui disent « Je ne me sens pas du tout appelé par Dieu pour le servir. » Faux. Faux. Dès le moment où j'ai reçu Christ dans ma vie, dès le moment où je suis devenu un enfant du Seigneur, un disciple de Jésus, je suis appelé à travailler, à le servir là où je suis, que je sois jeune ou moins jeune, petit ou grand, homme ou femme. Servir Dieu là où il nous place. Premièrement, à la maison. Ça, c'est notre première petite église. Ensuite, là où nous bougeons, avec nos voisins, au travail et bien sûr aussi à l'église. Je dirais aussi, n'attendons pas d'être qualifiés avant de servir Dieu. Jésus n'a pas choisi des disciples formés et qualifiés. Il les a choisis. Et ensuite, il les a formés, d'accord ? Et qualifiés. Ensuite, c'est vrai, nous pouvons aussi nous laisser former dans ce processus que nous vivons journellement avec notre Seigneur, dans cette relation étroite avec Dieu. Lorsque nous étudions sa parole, nous sommes en relation avec lui, dans la prière, dans le partage. Et nous pouvons aussi nous laisser former par une formation biblique, école biblique. Mais de nombreuses personnes n'ont jamais eu cette possibilité de faire une école biblique. Qui n'a jamais eu une possibilité de faire une école biblique ? Moi. J'ai jamais eu cette possibilité de faire une école biblique. Et pourtant, Dieu les utilise aussi merveilleusement. Amen. Dieu accomplit premièrement son œuvre avec ses enfants qu'il a choisis et établis. Et ceci aussi indépendamment d'avoir eu la possibilité de faire une formation biblique ou pas. Bien sûr, c'est merveilleux être choisi, établi, avoir mis un temps à part pour une formation biblique. C'est formidable. Mais tout le monde n'a pas, justement, cette possibilité-là. Moi, je fais partie de ces personnes. J'ai appris polymécanicien. J'étais pendant 20 ans dans l'entreprise, dans la mécanique, dans l'assurance qualité. J'aurais pu continuer. La boîte voulait absolument m'envoyer encore pour faire des écoles, des formations. Ils m'ont promis bien des choses très, très, très intéressantes, avec un très joli salaire, mais je savais que mon appel, c'était autre chose. J'ai fait, en tant que n'ayant pas eu la possibilité de faire une école biblique, je le dis juste pour vous encourager, d'accord ? Parce qu'il ne dit pas, ouais, ben Marcel, c'est un pasteur, avec ce qu'il nous dit ce matin, c'est normal. Hein? Non. J'ai fait plus de 60 voyages missionnaires. J'ai vu des milliers de personnes donner leur vie à Jésus. J'ai donné des messages devant des mini-groupes de 5-6 personnes et devant 24 000 personnes. J'ai donné des messages dans de nombreuses églises, accompagné des églises en difficulté. Encore maintenant, je le fais. Et je ne suis pas plus intelligent que vous. Je brillais à l'école, je brillais surtout par mes mauvaises notes. Je n'étais pas un bon élève à l'école. Mais quand Dieu choisit, il établit. Dès le moment où nous sommes un enfant du Seigneur, il nous qualifie, il équipe, il forme, il donne son onction pour porter un fruit pour sa gloire. Amen. Tu es choisi. Il t'a appelé. Il a mis ses qualités dans ta vie. C'est tellement important de le recevoir. Jésus dit, la récolte est très grande, mais il manque encore des ouvriers. Aussi à bien, il manque encore des ouvriers dans notre région. Dieu a besoin de ses enfants pour que son œuvre puisse progresser. Et je le redis, personne n'est trop jeune, personne n'est trop âgé, personne n'est trop petit ou trop grand. Dans Juges 6, 14, il est dit, « Va avec la force que tu as. » Dieu a mis en toi, grand-maman, en toi, jeune homme, une force, des qualités. Va avec cette force que Dieu t'a donnée. Amen. Ensuite, ne te compare pas avec les autres, avec ceux qui ont eu justement la possibilité de faire une formation. Ceux que lorsque vous arrivez dans leur salon, il y a justement le diplôme. Hein? Formation biblique. Merci Seigneur pour cet homme, pour cette femme. Gloire à Dieu. Mais ne dis pas, moi. Non. Tu es unique. Tu es unique. Tu as des qualités. Vis ta vie avec Jésus. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Il a besoin de moi là où il nous place. Et laissons Dieu encore et encore nous remplir de ses qualités, de son onction, de sa présence. Vous savez, chers amis, ce ne sont pas nos titres, nos diplômes, nos richesses, nos biens, nos comptes bancaires qui impressionnent premièrement Dieu, alors que Dieu n'a absolument rien contre cela, rien du tout. Je loue Dieu pour les gens qui ont des diplômes, qui sont doués pour prendre des décisions, pour conduire, pour créer des différences. Je loue Dieu. Il faut des personnes qui ont des diplômes, qui se sont fait laisser former. Il en faut dans ce monde, n'est-ce pas? Je loue Dieu. Mais ce qui honore premièrement Dieu, c'est mon amour pour lui. mon engagement pour lui. Un cœur rempli de sa présence. Ce qui honore Dieu, c'est le bien que nous faisons envers les autres, envers les pauvres. Le bien que nous faisons pour les faibles. Le temps que je prends pour ceux qui souffrent. Ce qui honore Dieu, c'est quand je partage l'Évangile, cette bonne nouvelle, là où Dieu me place. Ce qui honore Dieu, c'est quand je prends du temps pour expliquer l'Évangile. Expliquer le cœur d'amour de Dieu pour mes prochains. Ce qui honore Dieu, c'est quand nous nous accueillons les uns les autres, comme ce matin. Hein? On s'est accueillis, on est des frères et sœurs. On accueille ceux et celles qui viennent pour la première fois lors d'une telle rencontre, lors d'une soirée étude biblique, dans un groupe de maison, temps de prière, etc. Ce qui honore Dieu, c'est quand je lui dis sincèrement, me voici pour te servir, tel que je suis. C'est ça qui honore Dieu. Ensuite, chers amis, nous devons mettre à tout prix l'accent sur l'évangélisation, sur le salut du plus grand nombre. J'aimerais m'arrêter un peu là-dessus. Si nous faisons cela, nous faisons ce qui habite profondément et premièrement le cœur de Dieu. Dieu ne veut pas que quelqu'un se perde. Hein? 2 Pierre 3:9. Non, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Hein? On a déjà souvent entendu même des chrétiens qui disent « Oh, ça fait tellement longtemps qu'on dit que Jésus va revenir. Hein? » On a même sorti des dates. Moi, je connais des personnes qui ont vendu leur maison parce qu'ils pensaient, c'était quoi, il y a 5-6 ans en arrière, où j'avais même reçu un email, Marcel avertit l'Église que Jésus vient le 22 septembre, je ne sais plus quelle année c'était. Et ensuite, quand le 22 septembre a passé, ou bien même avant, j'ai quand même pris contact avec cet homme. J'ai dit, écoute, la prochaine fois que tu reçois une conviction pareille, partage-la. Partage-la. Pour peut-être connaître l'avis des autres. Hein? Ce serait peut-être sage. Ou peut-être tout simplement comparer ta conviction avec la parole de Dieu. Parce qu'on sait que personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Hein? Bref. Donc, il y a des gens qui le disent. « Mais ça fait depuis tellement longtemps qu'on dit que Jésus va bientôt revenir. Il n'est pas encore venu. » Mais pourquoi ? Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dans cette parole, je comprends deux choses. Enfin, je ne dis pas ainsi par le Seigneur, mais c'est ce que je comprends. Si tous les chrétiens, de tous les temps, depuis le moment où Jésus a envoyé ses disciples, lorsqu'il est monté au ciel, si tous les chrétiens de tous les temps avaient réellement mis en pratique ce que Jésus dit, allez prêcher l'Évangile, je me demande si Jésus serait déjà venu. Peut-être. Peut-être que le nombre serait atteint. Mais pendant des siècles, l'évangélisation a été terriblement paralysée. Et ça ne fait pas longtemps, ça ne fait pas 4 siècles, ça fait un siècle et demi, 2 siècles que des nouveaux mouvements sont nés, ont repris à cœur ces paroles de l'évangélisation. Et par la grâce de Dieu, l'évangélisation avance. Journellement, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui donnent leur vie à Jésus. Ensuite, deuxièmement, Jésus dit, je ne veux pas que quelqu'un soit perdu. C'est une décision, c'est clair. Hein? Vous avez déjà entendu des enfants qui disent, non, je ne veux pas. Si maintenant tu manges ta soupe, sinon tu n'auras pas de chocolat. Non, je ne veux pas. L'enfant sait ce qu'il veut, je ne veux pas. Mais Dieu ne veut pas que quelqu'un se perde. Et je me pose souvent la question, et toi Marcel, est-ce aussi ta décision, cette décision ferme? Pouvons-nous dire ce matin, nous ne voulons pas que mes amis, nos voisins, nos collègues de travail soient perdus. Le salut des âmes est la priorité numéro une dans le cœur de Dieu. D'ailleurs, Jésus est venu dans ce monde pour sauver le monde. D'accord ? Il est mort à la croix, non pas pour jouer le rôle d'un superstar ou pour accomplir une œuvre d'un homme exceptionnel. Il est venu pour mourir à la croix, pour se charger de tous les péchés et pour sauver l'humanité. Ça, c'est la pensée clé de la venue de Jésus. C'est ça. Ça nous montre l'importance du salut des âmes. Et Jésus nous y convoque en disant « Allez dire la bonne nouvelle. Vous êtes mes témoins. Vous êtes sel et lumière. » Il ne dit pas « Vous allez faire du sel et de la lumière, mais vous l'êtes. » Vous savez, le moyen le plus simple pour partager l'Évangile, c'est notre vie. C'est notre vie. Nos paroles, nos décisions, nos actions, nos réactions, notre comportement, c'est le seul moyen le plus simple. Parce que, soyons sincères, souvent il nous manque du courage pour aborder quelqu'un. Ce n'est pas évident parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il va dire, mais qu'est-ce qu'elle va dire, etc. Je me souviens une fois, c'était à Port-Entru, on a fait une sortie d'évangélisation, puis je vois quelqu'un. Puis je lui dis « Bonjour monsieur, je m'appelle Marcel, et vous ?» Et puis il dit son prénom. Puis je lui dis « Écoutez, j'ai une bonne nouvelle à vous dire, Jésus t'aime. » Mes amis, il a commencé à brailler dans ce quartier. Je ne savais plus où me mettre. « C'est chrétien, ce Jésus braille !» Puis moi j'étais là « Oh Seigneur !» C'est pas évident quand on nous renvoie comme ça. Mais écoutez bien, c'est très très rare. C'est très très rare, ça arrive. Le lendemain, au même endroit, deux personnes ont reçu vraiment l'Évangile. Quand on propose la prière en pleine ville aux gens, c'est très, très rare que quelqu'un refuse la prière. Donc, on a besoin d'être libéré de cette peur, de cette crainte. Le monde panique. La directrice de ProJuventute disait, les jeunes paniquent, ils disent avoir peur de l'avenir, on va échouer, on va se planter. Les choses se compliquent. À quoi bon vivre? Le seul moyen est de quitter cette terre. La directrice de ProJuventute Suisse, elle fait un reproche au gouvernement, il n'y a plus de place dans les cliniques psychiatriques pour les jeunes. Ça doit nous interpeller. Et de plus en plus de personnes ont un réel problème dans leur tête. C'est terrible. On avait fait une sortie ici avec quelques personnes de l'église. On était au bord du lac ici à Bienne. Et on a dit ce matin, on va aborder les gens, on va leur poser une question. On va leur dire, on va déjà dire bonjour, je m'appelle Marcel et vous ? Comment ? Sylvie. Sylvie. Oh ben tiens, notre aînée s'appelle Sylvie. Sylvie, si Dieu pouvait faire un miracle pour vous, qu'est-ce que vous lui demanderiez ? Moi j'étais avec une autre personne, on y va, on va deux jeunes hommes, 17 ans peut-être, on lui pose cette question. Vous savez quelle était la réponse ? Un des deux. Je lui demanderai de mourir le plus vite possible parce que ma vie, c'est une merde. Voilà, je vous le dis comme il l'a dit. Je dis, comment ? Vous, un jeune homme comme vous, un magnifique jeune homme comme vous. Je vais vraiment aborder comme ça. Et on lui a expliqué ce que Dieu voulait. On lui a expliqué la valeur qu'il avait. On leur a remis une Bible. Ils ont dit, mais quel magnifique moment avons-nous vécu ? Mais ça doit nous inquiéter. J'ai vu un livre, le titre du livre c'était « Attente des jeunes, aidez-moi ou je meurs ». Pourquoi la vie ? Pourquoi ? Pour quel but ? Des jeunes et moins jeunes, aussi à Bienne je pense, dans notre région on en a eu plusieurs, mettent fin à leur vie. Le monde a soif de connaître la vérité. Dans un grand journal britannique, le titre était « 9 jeunes britanniques sur 10 ne voient pas de sens à leur vie ». 9 sur 10, ça fait le 90%. 9 sur 10. Il y a une panique terrible. Il faut aller expliquer. Pas seulement dire « Jésus t'aime », expliquer parce que les gens, ils ne savent pas. Ils savent qu'un Dieu existe. On va quand même à l'église à Pâques, hein, un vendredi saint, puis à Noël. Hein. Mais ils ne savent pas pourquoi. Pour eux, ça reste une théorie. Donc, de nombreuses personnes n'ont aucune idée de qui est Dieu. Ils ne savent pas d'où ils viennent, où ils vont. Dernièrement, j'ai entendu un chant à la radio, en allemand, en roulant la voiture, où le chanteur disait « Ich weiß nicht, wo wohnt das ich komme », donc je ne sais pas d'où je viens, « Ich weiß nicht, wo heret das ich komme », je ne sais pas où je vais, « Het up tantwort », est-ce que quelqu'un peut me donner la réponse ? Je me disais, j'espère qu'il transmette un numéro de téléphone, j'aimerais bien lui répondre. Parce que nous, on sait d'où on vient, on sait où on va. Mais c'est une chanson qui est écoutée par des centaines de milliers de personnes qui disent « Oh, ouais, c'est vrai, moi non plus, je ne sais pas d'où je viens, puis où je vais. » Mais c'est la réalité. C'est dans ce monde que nous vivons. De nombreuses personnes ne savent pas ce qu'est le ciel ni le paradis. L'enfer, ou c'est appelé l'enfer, ou l'étang de feu et de soufre. Dans le journal du Jura, où il y a souvent les faire-part, les annonces, les décès, en haut à droite, dans les faire-part, on met souvent sur un verset biblique ou une ligne ou un dicton. Et de plus en plus, on voit cette terrible phrase « Peu importe où je vais après la mort, j'ai des amis des deux côtés qui m'attendent. » Mais moi, ça me prouve cette immense ignorance au plus haut niveau de ce qu'est pour eux le ciel ou l'enfer. Ils n'ont aucune idée. À Grand Montana, des personnes ont témoigné hein, quand il y a eu ce bar qui a brûlé. Certaines personnes ont dit que c'était la descente aux enfers. Donc, ils ont eu un... Enfin, c'est terrible. Une voisine à nous, enfin, elle habite dans le même village, disait à Damaris, nous étions à Grand Montana quand c'est arrivé. Tout d'un coup, les sirènes, hélicoptères, les klaxons, les cris, la fumée. On croyait que c'était la fin du monde. Vous savez, quand on est devant une telle réalité, ça remet un peu les pendules à l'heure. Hein. Et beaucoup de personnes n'ont aucune idée. Alors qu'on a aussi entendu de beaux témoignages, hein. Cette jeune fille qui avait une croix, puis qui tenait sa croix, puis qui a été quand même un peu miraculeusement, est sortie miraculeusement des flammes. Donc, ceci dit, les chers amis, il faut expliquer aux gens pourquoi il est important de donner sa vie à Christ. Une nièce à Damaris a eu travaillé dans un camp, dans une maison de camp d'enfants. Et dans un dernier camp, ils ont posé la question aux enfants qui a déjà entendu parler de Dieu, de Jésus. 70% des enfants ont dit « Je n'ai jamais entendu parler ni de Dieu, ni de Jésus, ni de la Bible. » Et ceci dans un pays chrétien. Donc, ça doit nous interpeller. Ensuite, de nombreuses personnes cherchent de l'aide, mais ils ne savent pas où la trouver. Dans nos villages, tout le monde sait où est le Lidl, la gare, la Migros. Mais savent-ils où il y a un couple chrétien, un groupe de maisons, où je peux aller partager ma grosse souffrance, mon problème ? Le monde souffre, il panique, il vit dans la peur, il crie au secours. Et ils ont besoin d'être entendus. La vie de l'Église est très très importante. La communion fraternelle, où on intercède, où on écoute la parole, où on loue Dieu. C'est très important. C'est important d'y participer, mais c'est qu'une partie de ce que Dieu veut pour nous. L'Église, donc toi et moi, nous connaissons la solution pour ce monde. C'est Jésus. C'est Jésus qui est la solution. Et mon rêve, autant pour nous à Tavannes que pour toutes les églises, c'est que des personnes qui vivent dans des souffrances terribles, qui sont au bout du rouleau, qui ont peur de l'avenir, qui ne savent plus quoi faire ou chercher de l'aide, tout d'un coup, ils se souviennent de mon collègue de travail qui est chrétien, de mon voisin, de cette église ici, de ce groupe de maisons. Ça, c'est ma prière. Que l'église, donc toi et moi, nous soyons si connus, si visibles, si présents, que les gens puissent venir et trouver de l'aide. Je ne suis pas en train de dire que vous ne l'êtes pas, d'accord, mais je suis en train de dire continuons à l'être. Car le monde a soif. Le monde crie au secours. Cette parole, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Ce sont, entre autres, les premières paroles que Jésus a dit à ses disciples lorsqu'il les a choisis, lorsqu'il les a formés. Donc, la première raison de Jésus d'avoir choisi ses disciples, aussi apôtres, est de faire de quoi ? Non pas des hommes avec des grosses théories, il y en a assez, mais des pêcheurs d'hommes. Les dernières paroles de Jésus à ses disciples, à ses apôtres, dans Actes 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Ceci nous montre cette haute importance de partager l'évangile de Jésus, d'être visible, d'être crédible, d'être courageux là où Dieu nous place. Et je redis, j'aimerais le souligner, je ne suis pas en train de dire que vous ne le faites pas, que les chrétiens de bien ne le font pas, mais continuons à le faire. Amen. Continuons à le faire, c'est tellement important. Que Dieu nous aide à, je le prie aussi, pour notre église aux sept. Parce que le risque est très très grand de se sentir bien entre nous. Quand on avait ce projet de construction, parce que la salle de 300 places à l'Athénée était trop petite, et quand on s'est dit maintenant il faut plus de place, il y a aussi certains membres qui ont dit mais qu'est-ce qu'on veut encore plus de personnes, on est déjà assez nombreux. Je dis mais purée, c'est pas ça le but d'être nombreux. Le but c'est que des âmes soient sauvées. Ça va ? On est vite confortable entre nous. Continuez. Jésus a besoin de son Église pour faire connaître le salut. Ça fait partie de notre appel. Laisse-nous encore et encore encourager, oindre, équiper par le Saint-Esprit. Et faisons-le d'une manière très, très simple. J'aimerais juste, pour terminer, vous laisser comme ça une liste de possibilités qui nous permettent d'aborder les gens. Premièrement, être conscient qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu m'a choisi pour partager l'Évangile. D'une manière simple, d'accord ? Simple. Pas besoin de prendre une guitare, monter sur les toits, ou bien j'en sais rien, mais d'une manière très, très simple. Alors, je l'ai dit, le moyen par excellence, c'est quoi ? Qu'est-ce que je vous ai dit avant ? C'est notre vie. C'est mon comportement, mes actions, mes réactions, mes décisions. Vous savez, nos amis non-chrétiens, je ne pense pas qu'ils veulent d'abord et à tout prix entendre un beau message, une belle théorie de notre part. Mais ils aimeraient voir ce que l'Évangile a changé dans notre vie. Pourquoi Jean-Jacques, au travail, quand il a un souci, il ne jure pas ? Comment ça se fait qu'il arrive à régler ce problème en restant calme ? Mais Jean-Jacques, tu fais comment ? Moi, ça m'arrive, je pète les câbles. Puis Jean-Jacques dit, écoute, moi je sais que Jésus est avec moi aussi dans n'importe quel défi. Quand j'ai un problème avec ma machine. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Vivre l'Évangile, c'est le moyen le plus simple. Ensuite, quand un collègue de travail une collègue de travail nous dit je ne vais pas bien aujourd'hui, mon mari ou mon épouse a reçu une mauvaise nouvelle, problème de santé, elle doit se faire opérer. Entre dire ouais, c'est terrible, c'est horrible, ouais, ça me fait pitié, ou bien proposer la prière. C'est deux mondes complètement différents. Très souvent, on nous ouvre les portes. Hein? Très souvent, nous sommes devant des situations où il suffit tout simplement de parler, de dire quelques phrases. Dire, écoute, je veux prier pour ton mari, je veux prier pour ton épouse, pour que tout se passe bien. Et ça touche les gens. Donc, proposer la prière. Une personne a peur de l'avenir, on peut la rassurer en disant, mais avec Jésus, c'est vrai, les choses vont se compliquer dans ce monde, mais avec Jésus et avec sa parole, ça me rassure. Parce que je sais que Jésus a dit, je serai toujours avec vous, aussi en 2026. D'accord ? Donc on peut rassurer les gens. Traverser nos quartiers en priant. Distribuer des traités chrétiens. Demander, justement, quand on fait des sorties, ce que j'ai dit tout à l'heure, si Dieu pouvait faire un miracle pour vous, qu'est-ce que vous lui demanderiez ? Ou bien, bonjour, j'ai une bonne nouvelle à vous dire, Dieu vous aime. Mais c'est rare que quelqu'un dise, j'en ai rien à faire. Au contraire, il dit, mais ça me fait plaisir d'entendre ça. Vous avez une grande valeur aux yeux de Dieu. Ou bien, par exemple, quelle est la plus belle expérience que vous avez vécue ? C'est aussi ce que nous faisons de temps en temps. Dites-nous, quelle était votre plus belle expérience ? Puis ensuite, ils nous racontent, ma plus belle expérience, c'est quand j'ai fait un saut en parachute, je suis parti là, depuis Granche, et puis, oh là là, c'était fantastique. Vous voulez que je vous dise ma plus belle expérience ? Et puis on peut témoigner. Inviter pour un repas. Priez pour les autorités, les écoles, les chefs d'entreprise, etc., etc. Priez pour un réveil spirituel, priez pour une faim et une soif sur la ville de Bienne. Il y a beaucoup de moyens, beaucoup de possibilités et de méthodes. Continuez tout simplement à les mettre en pratique. Partageons cet amour que Dieu a pour chaque homme. Expliquons pourquoi il est important de donner sa vie à Christ. Et quand j'explique ceci, je commence toujours à la création. Je dis quel était le plan initial de Dieu, le paradis où l'homme devait vivre en paix absolue. Et que ce monde actuel n'a rien à voir avec ce que Dieu voulait dès le début. Et le pourquoi le chaos mondial est venu. C'est parce qu'on a commencé à mettre Dieu de côté. Mais que Dieu n'a pas changé son plan initial. C'est qu'il va refaire toute chose nouvelle. Raison pour laquelle il a donné Jésus à la croix. Vous comprenez ce que je dis ? Il faut un peu expliquer, faire comme ça un survol. En 15 minutes, on arrive à faire un survol pour que les gens disent « Ah oui, tiens, j'ai jamais entendu ça. » Faire un peu un survol. Puis ensuite, on sait clairement que Dieu va faire un nouveau ciel, une nouvelle terre. Il va refaire toute chose nouvelle, où régnera la paix, la joie, le bonheur. Et c'est pour ça qu'il est important d'être connecté avec Dieu. Par la mort de Jésus à la croix, l'homme peut être reconnecté avec Dieu pour cette vie dans le paradis, ce que Dieu avait initialement prévu et qui a été fichu en l'air à cause de la désobéissance. Moi, je fais souvent ce survol et je suis étonné de voir comment les gens se disent « Ah oui, tiens, j'ai jamais entendu ça. » Montrons aux gens le chemin vers Dieu. Encourageons ceux qui passent par la souffrance. Soyons à l'écoute de ceux qui ont besoin d'aide. Dieu nous aime afin que nous puissions aimer en retour. Dieu nous a libérés afin que nous puissions aller et libérer au nom de Jésus. Dieu nous a sauvés afin que nous puissions aller, nous, partager l'Évangile. Dieu nous a donné cette paix et nous la donne afin que nous puissions, nous, donner cette paix à ceux qui ne l'ont pas. Dieu est miséricordieux envers nous. On a vécu cette miséricorde, on la vit, sa présence, pour que nous puissions aller le partager. Amen. Chers amis, soyons libérés de toute peur, de toute crainte. Ça, c'est quelque chose que j'ai encore besoin de grandir, d'être libéré de toute peur, de toute crainte. Amen. pourquoi est-ce qu'on n'a pas de problème de parler du football, du hockey, etc. Pourquoi est-ce qu'on se gêne de parler d'un Jésus qui a des projets d'amour? Et puis, même si on se fait renvoyer, vous savez, si je dis à quelqu'un, écoute, moi j'aime bien eBay, c'est vraiment super ce club, puis qu'il demande, tu es complètement malade, toi, eBay, mais c'est Bâle. Mais je ne suis pas frustré pour ça. Vous êtes d'accord? Mais pourquoi est-ce qu'on l'est? Quand on dit, ben, Jésus t'aime, il a un projet pour toi. Puis il dit, mais toi, tu as des bêtises, arrête, ça m'énerve. Pourquoi est-ce qu'on est frustré? Vous comprenez ce que je dis? C'est pour ça qu'on a besoin d'être guéri de toute peur, de toute crainte. Amen. Alléluia. Voilà, chers amis, je termine avec 2-3 versets bibliques pour nous encourager encore une fois et pour nous dire encore une fois, continuons à partager l'Évangile. Amen. Alléluia. Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi. Ben, si vous voulez vous lever, vous pouvez. Hein. Lève-toi. Sois éclairé. Car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre. On le voit hein, à longueur de journée. Et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, sur l'église du réveil à Bienne, c'est la gloire de l'Éternel qui apparaît. Amen. Des nations marchent à ta lumière et des rois à ta clarté, à la clarté de tes rayons. Moi, je crois que des personnes, enfin, je le formule autrement. Moi, je crois que nos autorités, le Conseil fédéral, moi, je crois que le jour vient où ils vont ouvrir leur Bible avant de prendre des décisions. Est-ce que c'est impossible? Non. Et moi, je crois que des personnalités de bien vont venir en ces lieux chercher des chrétiens à qui ils pourront prier pour prendre des bonnes décisions. Ne dites pas, ouais, Marcel, tu rêves un peu trop. Non, je le crois. Vous savez, quand il y a eu des pestes à Bâle, en Suisse, où des dizaines de milliers de personnes sont décédées, le gouvernement, ils ont fait quoi? Ils ont appelé à des jours de prière hebdomadaires. Dans les journaux, certainement la radio, ce jour-là, on va prier parce que la Suisse passe par une grosse souffrance. Ben, ça risque de revenir. Hein. Des nations, Ésaïe 52, 7, qu'ils sont beaux sur les montagnes, qu'ils sont beaux à bien au bord du lac. Je ne sais pas si vous avez cette traduction, moi je ne l'ai pas, mais j'ai inventé. Les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. Amen. De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. De celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Ésaïe 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et l'église du réveil de Bienne répondit, envoie-nous encore, Seigneur. Nous voici pour te servir. Et l'église de Jésus au 7 à Tavannes répondit, nous voici, Seigneur. Envoie-nous encore pour te servir. C'est la plus belle des choses que nous pouvons dire. Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et parle à ce peuple. Voilà, chers amis, ce que j'avais à cœur de vous partager ce matin. Je vous ai choisi et établi. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des enfants du Seigneur. Important pour que son nom puisse être connu ici à Bienne et là où vous habitez. Que Dieu vous bénisse. Je me réjouis de passer ce temps dans la Sainte-Seine. Nous pouvons aussi encore réfléchir à ça et peut-être méditer. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci parce que, oui, tu es un Dieu qui est fidèle. On a besoin de toi. Ce n'est pas toujours simple, c'est vrai, Seigneur. Souvent, on nous considère comme des illuminés ou autres. Mais il y en a d'autres, Seigneur. Il y en a d'autres qui nous considèrent vraiment comme des amis et qui ont besoin de toi. conduis-nous, inspire-nous, dirige-nous, Seigneur. Afin que beaucoup, beaucoup encore puissent te découvrir comme Seigneur, comme Sauveur, comme Libérateur. En commençant chez nous, là où nous habitons, sur nos lieux de travail, dans nos relations, au nom de Jésus. Je bénis ton Église ici. Je bénis tes enfants. Merci pour qui ils sont. Encourage-les, Seigneur. Encourage-nous à aller de l'avant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.